Kiss Pumas! Down, down, double down!
Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.
Sur l'émission Grain de Sable, et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Tony Fortin.
Bonjour.
Qui est chargé d'études à l'Observatoire des armements. Donc c'est un sujet âpre aujourd'hui pour un grain de sable, mais c'est pas un sujet si éloigné de l'écologie, de l'économie ou du social.
Ah hein.
Donc nous allons parler des armes et des armements. Alors Tony, ce qui serait peut-être bien, c'est de nous rappeler la création de cet observatoire. Pourquoi s'est-il créé et tout particulièrement à Lyon?
Alors pourquoi il s'est créé? Parce que ça a été créé dans les années 80, dans une période où il y avait des mouvements qui étaient quand même assez conséquents en France, mouvements antimilitaristes, hein, c'était toujours une minorité de la société, mais il y avait quand même cette mobilisation-là dans les années 80, avec des mobilisations contre le nucléaire militaire, et au moment de la crise des euromissiles en Europe, des objecteurs de conscience, à l'époque, se aussi opposaient effectivement au service militaire. Il y a ça aussi qui était constitutif du centre, se sont dit ça suffit pas d'aller aux manifs, il faut aussi, pour peser face au pouvoir, qu'on puisse documenter un peu les situations qu'on décrit. Et donc, ils se sont mis à mettre en commun leur documentation qu'ils avaient amassée des années durant, et puis ça fondait ce centre de documentation et de recherche qui est né en 1984. Et qui après s'est poursuivi, et même s'il y a eu après l'abolition de la conscription, les activités du centre se sont centrées sur deux axes, hein, dès 1984 d'ailleurs, à savoir les recherches en matière de transfert d'armement, où la France vend ses armes, à qui, pourquoi, qu'est-ce qu'elle vend. C'est vrai qu'il n'y avait aucune information ce sujet-là, et puis aussi rapidement sur les armes nucléaires, quel est un petit peu le stock d'armes nucléaires, à quoi sert l'arme nucléaire, et puis surtout tout le travail qui a été mené dès la fin des années 90, début des années 2000, sur les conséquences des essais nucléaires français sur les populations, que ce soit en Algérie ou en Polynésie, oui. Les conséquences sur la santé, les conséquences écologiques.
On va y revenir, parce que c'est un sujet peut-être qui n'est pas si souvent abordé, qui n'est pas si connu que cela.
Alors moi, au sein de l'Observatoire, je m'occupe des transferts d'armement. Alors je connais moins les autres sujets, parce que déjà, c'est beaucoup les transferts d'armement, les robots aussi, je m'intéresse beaucoup aux robots. Je suis moins compétent sur tout ce qui est nucléaire et essais, hein. Je peux en dire deux mots, les grandes idées, mais c'est vrai que...
Un peu plus que deux mots.
voilà.
Donc, le choix même du titre, hein, Observatoire, montre bien qu'au départ, effectivement, c'est la volonté de rassembler une documentation et de mettre à disposition des citoyens cette documentation et peut-être aussi d'aller déjà dans une interpellation peut-être des élus ou d'un certain nombre de personnes décideurs en la matière.
Oui, l'idée, c'est pas simplement de documenter, parce que c'est facile, on met des livres en commun et puis voilà, ça forme un centre, mais ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de comment on fait pour transformer les choses, comment on fait pour agir sur la réalité. Et c'est vrai que la question des manifs, ils en ont fait fin des années 70, des dizaines de manifs, des vingtaines, trentaines, il y a eu l'ARZAC, et c'est vrai que ça n'a pas abouti à un changement. Alors, du coup, ils se sont dit, est-ce qu'il ne faudrait pas réviser notre stratégie ? Du coup, être sur le volet de l'expertise pour être considéré comme crédible vis-à-vis du pouvoir, dans le but de le placer face à un contre-argumentaire bien étayé et le pousser, évidemment, à réagir, à faire pression sur les députés à partir d'éléments concrets, dans le but, là encore, d'essayer de transformer les choses. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Y a une loi qui est en 2010 qui indemnise les victimes des essais, et d'ailleurs qui a été étendue début 2017 aux victimes, aux travailleurs du nucléaire. Alors, c'est une loi qui a été imparfaite pendant longtemps, hein, parce que cette extension au domaine des travailleurs du nucléaire existe depuis 2016, mais concrètement, elle permet à des gens qui sont exposés par des radiations de pouvoir demander un dédommagement financier en raison des dommages qu'ils ont subis de la part de l'État.
On parle à la fois du nucléaire militaire, donc avec les essais nucléaires qui ont eu lieu en Algérie et en Polynésie, mais aussi peut-être du nucléaire civil ou pas. Quand on parle des travailleurs...
Il y a eu cette extension-là, c'est-à-dire que nous, notre idée, c'est aussi... on sait bien qu'il y a cette connexion entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Donc évidemment, il est évident que je pense que les associations qui travaillent sur le nucléaire civil doivent forcément s'intéresser effectivement au cadre militaire, parce que la bombe, l'autonomie stratégique de la bombe qu'a recherché le général de Gaulle, cette idée qu'avec la bombe, la France allait être indépendante, ça a entraîné le développement du nucléaire civil en France dans les années 60, 70, et aujourd'hui, c'est pas remis en cause, précisément parce que c'est en termes énergétiques, parce qu'on se dit, parce que c'est un instrument du pouvoir au seul service du président de la République, et c'est un des rares leviers qu'il a encore à sa disposition dans le cadre d'une économie mondialisée pour influer sur des régimes de type moyen-orientaux ou autres sur lesquels, effectivement, le président de la République veut peser. Donc il se dit, si je touche à l'arme nucléaire, si je touche au nucléaire, d'une certaine façon, je m'ampute d'une partie de mon pouvoir.
Donc le nucléaire, c'est vraiment un des points forts de l'activité d'observatoire. Je reviens sur l'observatoire. Donc c'est vraiment le cœur, peut-être pas quand même, le cœur de métier.
En tout cas, historiquement, oui, c'est vrai mais on a travaillé aussi sur les transferts d'armes. Ouais.
Donc le nucléaire, les armes. Alors, je vais revenir, on va y revenir quand même sur ces différents champs d'activité. Je voudrais d'abord savoir comment fonctionne l'Observatoire. Ouais. Donc il y a des adhérents. Comment l'Observatoire des armements fonctionne aujourd'hui ?
Comme une association classique, tout le monde peut venir donner un coup de main. Hein. Alors tout le monde peut venir faire des recherches. Alors on a des bénévoles, une quinzaine, qui viennent faire à la fois des travaux de secrétariat, de documentation, de découpage des journaux, parce qu'il faut archiver un peu tout ce qui existe au niveau de termes d'information sur les transferts d'armement. Puis il y a nous, alors il y a Patrice Bouvray, qui a longtemps été l'unique salarié du centre et que je viens de remplacer parce qu'il souhaite prendre un petit peu de champ, tout en restant militant au centre, et lui qui menons des recherches, sachant que parfois il y a des étudiants qui viennent nous épauler parce qu'ils le souhaitent. On a aussi un bénévole, on préfère le terme militant, parce que c'est un engagement politique, qui vient, on a lancé une chaîne YouTube avec, en 5 minutes, un petit résumé des enjeux autour d'une question d'armement. C'était la guerre au Yémen, et puis les ventes d'armes françaises, mais ça peut être un enjeu. Donc on est une équipe, on souhaite fonctionner de manière militante, c'est-à-dire parce qu'aussi on faire le choix d'un fonctionnement un petit peu fluide qui est dirigé plus vers les objectifs politiques que la pérennité de la structure en tant que telle. Parce que souvent, on voit beaucoup ça dans les mondes associatifs, c'est-à-dire on fait vivre la structure pendant des années et des années, mais on se demande pourquoi. Et nous, on veut garder ce côté très light, fluide, qui nous permet vraiment de nous concentrer sur les objectifs qu'on veut, en fonction de l'actualité du moment, de voir là où on peut avancer, progresser le débat, plutôt que être sur quelque chose de figé avec beaucoup de salariés et on serait bridé politiquement, quoi.
En même temps, la pérennité de la structure permet aussi de gagner peut-être en expertise, hein, puisque l'Observatoire se place quand même comme un expert capable de discuter avec, avec les élus en particulier.
Oui, là, on touche une tension qui est très, 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 très forte. C'est-à-dire que oui, et on est face à cette tension-là. C'est-à-dire que si on demande trop de financement ou par des fondations ou autres, beaucoup de financement, ben, on a une équipe effectivement salariée qui va permettre de faire des recherches et d'étayer cette expertise-là, donc, qui va être utile. Et de l'autre, effectivement, ça nécessite de déployer beaucoup de moyens en termes de recherche de financement et d'être dépendant aussi des bailleurs. Et du coup, c'est aussi une contrainte politique. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui est positif et négatif en même temps. Il faut arriver à trouver l'équilibre entre les deux, ce qui n'est pas forcément évident.
La recherche de financement, c'est toujours une difficulté pour des structures, parce que en fait, c'est ce qui permet aussi de rester ou pas indépendant ou jugé indépendant par rapport aux observateurs extérieurs.
Tout à fait, c'est ça. Et puis, il y a très très peu d'argent sur là où on travaille. C'est plutôt des dons, hein. On vit plutôt des dons des particuliers. De gens qui sont eux-mêmes, qui ont été militants par le passé ou qui continuent à militer. Et c'est vrai que notre ressource première, c'est les dons des gens, ce qui nous confère, nous donne un petit peu d'indépendance. Après, voilà, il y a des cours, il y a parfois des études venant d'ONG, mais ça reste marginal par rapport à ça. Donc on est...
Donc une structure associative.
Voilà.
Qui est financé par les adhésions.
Voilà, c'est ça.
Enfin, les dons. On appelle les dons, aux dons, si vous voulez participer à la pérennisation de cet observatoire. Il y a possibilité de faire des dons.
Oui, et puis des dons, mais surtout un engagement, nous, mieux que les dons, c'est un engagement des gens à participer aux activités d'une façon ou d'une autre, faire de la recherche, essayer de s'informer, de trier la documentation, d'aider le secrétariat, trésorerie. Oui, on est là pour former. Voilà, donc c'est plutôt ça qui nous importe, parce que l'engagement politique des gens, c'est ce qui va permettre le changement social. C'est pas le changement social, il vient de la base, il vient pas d'en haut. Nous, on peut donner l'information, on peut à un moment donné agir sur les journalistes, et c'est clair que ça a une influence. Mais tant qu'on n'aura pas des gens qui se mobilisent, qui s'engagent politiquement, qui s'investissent dans des activités, mais ça peut être l'Observatoire, mais ça peut être aussi créer des mouvements pour faire des actions contre les salons de l'armement, ça peut être des actions de terrain aussi, ou s'engager dans d'autres associations pour faire pression sur la politique de la France à l'international. Tant qu'on n'aura pas ça, ça va être très dur d'avancer en France sur ces sujets. Le débat va continuer de bloquer, parce que la France, c'est nous, quoi. Enfin, je veux dire, le monde, c'est nous. La politique, elle est aussi faite par les citoyens, et si on fait que déléguer un petit peu ce qu'on pense ou en termes politiques, et on s'investit pas au quotidien, le changement social va être très compliqué, quoi.
Voilà. Ça, en fait, c'est vrai quasiment pour tous les domaines.
Tous les domaines. Mais parfois,
on pense que donner,
ça suffit, mais ça résout pas tout.
C'est un peu aussi le problème d'ailleurs du vote. On délègue sa voix pendant 5 ans et on ne dit plus rien pendant 5 ans.
C'est la limite du problème de délégation.
C'est la limite, effectivement, de la délégation. Donc il faut. Le maître mot, c'est la participation. Donc,
c'est
Pour ça d'ailleurs qu'ici à Grains de Sable, on aime bien inviter aussi des associations, les structures alternatives ici à Lyon, parce que ça permet de montrer que il y a des choses à faire. On peut s'impliquer de mille et une manières, pas simplement en adhérant à une association, mais en y participant. Donc cette documentation, elle est. Je suppose que l'Observatoire ne travaille pas seul. D'ailleurs, quand on va sur le site, on voit tout de suite membres de la campagne internationale pour l'abolition du nucléaire. ICANN. Qui a été, d'ailleurs c'est marqué prix Nobel de la paix c'est l'ICANN qui a été...
Tout à fait, c'est la campagne internationale qui a obtenu le prix Nobel l'année dernière. Donc c'est une grande avancée. C'est vrai que, en fait, notre but, c'est pas de travailler de façon isolée, de faire vivre la structure. C'est, si on veut chercher à bouger les choses, on est obligé de bosser avec les autres. parce que c'est à plusieurs qu'on arrive à une transformation. Donc notre but, c'est de faire pression à la fois auprès des politiques, mais aussi au sein des autres ONG pour qu'elles s'emparent de ce sujet-là. Des armes. Ça, par exemple, là, on est sur une campagne sur le Yémen, dans le but d'interrompre les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, de faire en sorte que le Parlement ait un vrai rôle pour contrôler là où la France vend ses armes, à qui, pourquoi, parce que non seulement la France a vendu des armes, mais elle a préparé cette guerre avec les Saoudiens, hein, c'est-à-dire qu'elle a vendu énormément d'armes juste avant le conflit, de façon à ce que les Saoudiens et les forces des Émirats Arabes Unis disposent de tout l'armement nécessaire pour mener cette guerre qui repose entièrement sur le bombardement des populations, hein, comme toutes les formes de guerre, mais encore plus celle-ci, où le but c'est d'étrangler la population en l'affamant, puisque les ports sont bloqués, et puis à bombarder non seulement les hôpitaux, les fermes, mais à viser précisément les civils. Alors vous imaginez le désastre là-bas. Donc notre but, ça a été de bouger les ONG pour qu'elles s'emparent vraiment de ce sujet-là et que ça puisse changer, avoir un impact. Donc ça a fonctionné, puisque la Fédération internationale des droits de l'homme et la CAT ont rallié cette campagne pour demandant la suspension des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et un réel débat en France sur le sujet.
La CAT, il faut rappeler que c'est l'association
pour l'abolition de la torture. Voilà, enfin,
c'est bien ça.
Tout à fait.
Donc, travailler avec des ONG dans le domaine des droits de l'homme, bien sûr. Est-ce que vous travaillez aussi en réseau avec d'autres associations du même type d'activité en Europe, par exemple?
Oui, on est au sein d'un réseau européen contre le commerce des armes qui s'appelle l'ENAT. Donc on est en lien avec des petites assos qui sont un petit peu dans le même objectif que nous, qui peuvent être en Suède, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, voire même en République tchèque. Et là, on travaille au niveau de l'Union européenne, parce que l'Union européenne veut donner, commence à financer la recherche militaire, hein, avec 500 millions cette année, 1 milliard d'euros l'année prochaine, destinés à la fabrication de nouveaux armements, notamment robotisés. Et sans qu'il y ait de débat public là encore sur la question, puisque de génération jusqu'à l'UMP, tout le monde a voté ces financements supplémentaires qui vont d'ailleurs être pompés sur les dépenses sociales, hein, ou culturelles de l'Union, notamment.
De l'Union européenne.
Et même Erasmus+ est mis à contribution, c'est-à-dire que vous avez des projets de recherche en matière militaire ou d'information ou de formation qui vont être pompés sur Erasmus+, qui est réservé aux étudiants européens, qui est un réseau d'échange. Et même ça, il y a des fonds d'Erasmus+ qui vont aller vers l'industrie de l'armement. Donc c'est quand même hallucinant, et il n'y a aucun débat sur le sujet en France et évidemment très peu en Europe. Vous avez à peu près 30% des sociétés qui bénéficient de ce fonds, sont membres d'un comité de haute personnalité qui a travaillé avec la Commission européenne qui a travaillé sur ces financements, quoi, sur l'architecture de ces financements. Donc il y a un conflit d'intérêts qui est énorme. Il y a un très fort lobbying des sociétés d'armement et puis une très forte pression des gros États au sein de l'Union européenne pour donner plus d'argent. Et donc nous, on a un chargé de plaidoyer à Bruxelles qui est là pour tenter d'essayer de poser des questions et de limiter ça du mieux que possible, avec quand même des résultats pour le moment très difficiles, parce qu'on est des petites structures et il faut bien dire, présenter les choses telles qu'elles sont. La question de défense, c'est pas quelque chose, en tout cas en France, dont les citoyens s'approprient, contrairement au pays. Par exemple, j'ai discuté avec une citoyenne allemande plutôt de gauche il y a quelques semaines, qui était totalement au courant que ces sociétés d'armement dans son pays possédaient des filiales dans d'autres pays, à passer par des filiales justement pour produire de l'armement qui n'était pas soumis au contrôle allemand. Tu vois, elle m'a dit ça de but en blanc. Mais en France, on ne s'y intéresse pas. On ne s'y intéresse pas, puis surtout on pense que la France est un pays meilleur que les autres. Il y a un côté comme ça. Et du coup, les gens se désinvestissent de questions.
Le fameux pays des droits de l'homme.
S'investir sur d'autres sujets. Et du coup, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Et en même temps, ça ne crée pas... la France continue sa politique et très crade, hein, parce que ce qui se passe au Yémen, pour moi, je peux le dire texto, c'est un nouveau Rwanda. Donc aujourd'hui, on discute des choses du passé, mais on s'aperçoit pas qu'il y a un gros massacre à grande échelle qui est commis, hein, avec quand même, voilà, si on bombarde des hôpitaux, des fermes, on affame les populations, voire même à un moment donné, on laisse le choléra prospérer, ça pose quand même énormément de questions, et c'est vrai que pour le moment, ça, le débat, en tout cas, s'échappe pas, en fait, du cercle des ONG ou du cercle des quelques personnes qui à Paris s'intéressent des questions internationales, ça a du mal à prendre et les gens ne sont pas informés parce que c'est vrai qu'il y a un blocage des médias sur le sujet, très difficile de faire passer des papiers là-dessus, on se bat quotidiennement et c'est juste pas normal.
C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Finalement, la difficulté, c'est que ces deux domaines, hein, le nucléaire et la vente d'armes, ou la recherche sur les armes, les nouveaux armements, etc. Ce ne sont pas des domaines qui sont investis par les médias en général. Je parle des grands médias. Mmh. Je ne parle pas des médias alternatifs. Ouais. Voilà. Mais ce sont aussi des domaines qui sont peu... que s'approprient peu aussi les parlementaires. Ouais. Donc, il y a peu... il n'y a pas de débat. Ni sur le nucléaire, ou très peu, sauf à l'occasion, effectivement, d'actions visibles, qui font du bruit, portées par des ONG, mais il y a très peu de débats, y compris des débats publics parlementaires, sur le problème des armes.
Et c'est vrai qu'on compare au Royaume-Uni, c'est le jour
et la
nuit.
Est-ce que parce que ce sont des domaines qui, pour ces médias et puis pour ces parlementaires et puis peut-être aussi pour une grande partie de la population, concerne des secteurs économiques porteurs.
Il y a ça, ouais. Il y a effectivement ça. C'est le seul secteur qui est excédentaire au niveau de la balance extérieure française. Donc effectivement, on met en avant l'argument économique pour soutenir ce type d'industrie, sachant qu'il est surévalué parce que quand même, aussi important que soit l'armement, par exemple, par rapport à nos échanges économiques avec l'Arabie Saoudite, ça n'en reste qu'une partie minoritaire comparée au luxe, au parfum, ou à la gastronomie française, par exemple. C'est vraiment une partie minoritaire. Donc, en fait, la question, elle est d'abord, avant tout, politique.
C'est un
choix politique stratégique. C'est un outil aux mains du président de la République dans un système qui date du gaullisme et qui fait que, on accepte qu'il y ait une personne qui concentre la plupart du pouvoir pour tout un tas de raisons symboliques, culturelles, liées à l'héritage monarchique, liées après à la place que l'on se projette dans le monde aussi, hein, qui est une place qu'on pense importante et pourtant on s'en questionnait ce que cette notion d'importance revêt en termes d'influence sur des régimes pas très démocratiques, sociétés multinationales dont on défend les intérêts par la politique étrangère française. Et il y a un consensus droite-gauche sur le sujet. Et il faut reconnaître que dans les années 70, une partie du Parti socialiste, quand même, était quand même au début opposé à tout ce qui était vente d'armes, ou en tout cas très critique. Et au moment où, effectivement, il a fallu se présenter aux élections présidentielles en 81, Mitterrand a totalement reviré de position dans son alliance avec le PC, pour pouvoir faire alliance avec le PC sur la question du nucléaire. Il s'est fondu, comme on le sait, dans les habits du président de la République, du monarque républicain, et ça contribuait d'une certaine façon à dépolitiser les questions de défense, qui étaient vraiment, dans les années 70, un marqueur idéologique, quelque chose qui faisait quand même un peu débat au sein, peut-être pas toute la société française, mais au sein, en tout cas... des professions intellectuelles, quoi, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'après, ce débat s'est progressivement éteint. Hein, et puis, effectivement, l'abolition de la conscription, qui est tout à fait positive, a contribué à dépolitiser. À partir du moment où les gens n'étaient pas contraints à s'engager au sein de l'armée française, ça fait disparaître ça du débat public, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à s'intéresser à ces questions. C'était plus que du ressort des professionnels. Voilà, le truc, c'est que si on a un État qui est encore un peu providence à l'intérieur, enfin providence uniquement pour les nationaux nés en France, hein, pas pour les étrangers situés sur le sol, mais si on a un État providence pour les nationaux nés en France, l'État à l'international, c'est plutôt un État prédateur, l'État français. Hein. C'est un État qui aujourd'hui entretient des liens extrêmement graves avec des pays autoritaires, qui a préparé la guerre au Yémen, hein, cette guerre qui est un massacre organisé, d'une part. On a vendu énormément de technologies de surveillance à l'Égypte au moment même où le régime se durcissait, au moment même où Obama faisait ses critiques. Le gouvernement de François Hollande, précisément la politique de Jean-Yves Le Drian, s'est engouffré dans la brèche pour vendre des technologies de surveillance, pour renforcer la coopération militaire, alors que celle-ci était mise en veille pendant 10 ans, depuis des années, qu'elle n'a même jamais vraiment existé. Bref, s'est rapproché d'un régime autoritaire au moment même, où celui-ci constitué sur un péché d'une certaine façon originelle, massacre de 1000 personnes sur une place et en Égypte, massacre des gens issus des frères musulmans, mais après l'emprisonnement de toute l'opposition laïque, progressiste, les homosexuels, etc., etc. Et on continue à entretenir ce type de régime, sans compter évidemment entretenir les régimes avec les pays d'Afrique subsaharienne, que l'on connaît. Bref, on a une pérennité dans des politiques extrêmement prédatrices qui sont pas du tout remis en cause aujourd'hui, parce que derrière ces ventes d'armes, on a aussi accès à des contrats économiques, parce que aussi on se dit que la France, elle est dans son rôle, qui est d'entretenir
une grande puissance.
Donc il faut pouvoir questionner assez, et puis c'est aussi la défense de notre mode de vie. Un mode de vie très consommateur en ressources, on change d'ordinateur tous les 5 ans, de téléphone, etc., sans s'interroger sur le coût humain, écologique, de tels choix et économiques qui forcément conduisent au bout d'un moment à une pression sociale, à l'accaparement de ressources naturelles, de terres rares, et l'accaparement de terres rares est lié aux militaires. Je veux dire, si on installe des ports Bolloré ou en Afrique, si on installe des bases au Moyen-Orient, c'est précisément aussi parce qu'on souhaite incidemment avoir accès aux canaux politiques qui nous permettent de pouvoir disposer de ces ressources d'une certaine façon aussi. C'est pas que, mais aussi. Et donc, il faut à un moment donné que tout ça soit mis sur la table pour avoir un débat serein sur ces questions. Mais c'est pas une question purement économique, la vente d'armes, c'est d'abord une question politique et géostratégique.
On reviendra là-dessus tout à l'heure après une pause musicale.
Clamant tour à tour, protecteur ou bien prophète. Ils comptent sur toi pour t'engager, que tu les suives vaille que vaille. Au fond de n'importe quelle tranchée, sur n'importe quel champ de bataille. Changer leur fusil d'épaule, ça ne leur fait pas peur. Hier nous lui vendions nos rafales, aujourd'hui à mort le dictateur. C'est la guerre. Camarades, pour que leur histoire s'accomplisse. Aucune esquive, aucune parade, ils veulent que tu choisisses. Ils t'enverront en première ligne, toi ton courage et ta jeunesse. Sur ton uniforme, leurs insignes feront de toi un chien en laisse. Donne ton sang mon garçon, nous te donnerons le paradis. Donne ton sang pour la nation,
donne ton sang pour la patrie. C'est la guerre, partout c'est la guerre.
C'est la guerre,
toujours, 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 la guerre. Par te faire tomber, ils viendront fleurir ta tombe de leurs hypocrites pensées. Tu auras le droit aux honneurs, à leur entière reconnaissance, leur médaille, leur légion d'honneur, posthume récompense. Ils élèveront une statue et à ses pieds seront gravés le nom de tous ces inconnus. C'est la guerre, partout c'est la guerre.
C'était HK et les Saltimbanques. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et sur l'émission Grain de Sable.
Et oui, c'est la guerre, comme chantait HK. Aujourd'hui, notre invité est l'Observatoire des armements, avec Tony Fortin, qui est chargé d'études au sein de cet observatoire. Voilà. Alors donc, on parlait effectivement du choix. En fait, c'est un choix politique, à la fois économique, parce que c'est quand même un secteur économique qui est toujours en expansion. Un peu comme les marchés financiers, finalement. Hein. Il faut trouver des terrains, d'achat ou des terrains d'expansion de ce marché-là. Donc, c'est donc un choix économique, mais aussi un choix politique et stratégique pour que la France, finalement, soit présente en tant que tel, dans un certain nombre de pays ou dans un certain nombre de territoires géographiques, le Proche-Orient, le Moyen-Orient en particulier, aussi en Afrique, d'où finalement toujours cette manière de favoriser le développement des armes, enfin la production d'armes en France.
Et ce qui est assez intéressant, ce qu'on a constaté récemment, c'est que, en fait, c'est très compliqué de maîtriser aujourd'hui un pays comme on pouvait le faire, la période coloniale, c'est-à-dire dessiner les frontières sur le coin d'une table, les accords Sykes-Picot, où on a démembré la Syrie avec les Anglais. On le faisait sur le coin d'une table au début du XXe siècle, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On s'aperçoit que c'est pas possible. Donc on agit sur des groupes armés, comme lors de la guerre en Libye, la guerre en Mali, et puis du coup, ça renforce la partition du pays, ça renforce le morcellement du pays, ça approfondit la crise, parce qu'on connaît bien la situation en Libye, qui est un chaos dramatique, mais aussi au Mali, on livre des armes à des groupes, et après ces groupes changent de camp, se rebellent contre le gouvernement au pouvoir. C'est le cas des rebelles du Jebel Nafusa, auxquels on a donné des armes en Libye, qui après se sont opposés au gouvernement de transition en Libye, que la France soutenait. Et ça provoque un morcellement, parce que tous les pays soutiennent leurs propres forces armées. On voit avec la Syrie, Effectivement, on a les Russes qui utilisent des mercenaires, on a l'Arabie Saoudite qui soutient des groupes pareils plutôt d'obédience islamiste, la France et les Américains qui soutiennent les Kurdes, et du coup ça entretient les conflits plutôt que ça les résout. Il y a un truc vraiment où il y a une forme de chaos, mais il faut pas que ce chaos soit total, parce que si le chaos est total dans un pays, on peut plus faire d'affaires économiques, et c'est ce que disait un écrivain yéménite, il faut créer un chaos maîtrisable. Et ce qu'on constate notamment, c'est que dans ce chaos maîtrisable, la France arrive à tirer son épingle du jeu, parce que qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui? Ce qui compte, c'est la maîtrise des espaces stratégiques d'un pays. C'est-à-dire, par exemple, au Yémen, on s'aperçoit que les Émirats Arabes Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils conquièrent certes des zones, mais comme ils n'arrivent pas à les tenir, ils bâtissent des forteresses autour des ports qu'ils capturent, parce que c'est des ports, et surtout au Yémen, c'est un endroit très stratégique, ils passent des marchandises, on peut faire transiter des armes. Donc si vous capturez tous les ports d'un pays, vous étranglez le pays d'une certaine partie, et vous possédez un petit peu les têtes de pont du réseau, et vous apercevez que dans les ports tenus par les Émirats Arabes Unis, vous avez des bases militaires, vous avez une forte présence militaire, vous avez tout un appareillage de nouvelles technologies pour gérer les détections, avec des sociétés européennes, américaines qui fournissent ces technologies, même au Yémen, mais ça date d'avant le conflit du Yémen. Et les Émirats Arabes Unis installaient, paraît-il, selon la presse yéménite, des prisons secrètes dans lesquelles ils torturent des gens sur ces forteresses. Et ces espaces stratégiques, ça peut être des ports, ça peut être aussi des barrages. Par exemple, on a fait des recherches, et puis on s'est aperçu qu'il y avait au niveau du barrage des Nils en Égypte, une société française qui était chargée de l'audit de la gestion des eaux par rapport à ce barrage, parce que 80% de l'eau qui transite par le Nil arrive, et c'est l'Égypte qui en bénéficie au détriment d'autres pays comme l'Érythrée, et donc ça provoque un conflit avec d'autres pays. Et on s'aperçoit que bizarrement, depuis 2012, c'est des sociétés qui sont chargées de faire un audit sur la gestion des eaux du Nil. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans une zone de conflit, la crise, la question du conflit, ça devient un espace par lequel la France peut agir. C'est-à-dire, on accepte que la crise est là, on ne cherche pas à la résoudre, mais on l'utilise au contraire comme levier pour pousser ses propres intérêts. Parce qu'à travers ça, à travers cet audit, la France peut influer sur tous les pays qui demandent de l'eau.
Quelles sont les sociétés, les entreprises impliquées dans la création des armes, la production des armes en France, ou les multinationales?
Alors, on a des très grandes sociétés d'armement en France. Vous avez Thales, Safran, Nexter, qui produit des chars qui sont utilisés au Yémen, mais aussi des canons qui servent à bombarder des zones urbaines, et donc les populations civiles. On a Airbus aussi, qui fait aussi des avions et militaires et des drones, Dassault avec les avions de chasse. Bref, on a effectivement beaucoup d'industries d'armement en France, c'est très clair. Et l'armement, il est d'abord produit pour nos propres forces armées. Le but, c'est de les équiper. Le problème, c'est que c'est tellement coûteux à développer que si on pense à les développer, il faut pouvoir aussi les vendre ailleurs qu'à l'armée française, parce que sinon, c'est pas rentable et on fait pas tourner les chaînes de production. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'État peut pas vendre? C'est le contribuable qui paie. Et quand on le vend, on le vend généralement à des pays qui ont de l'argent mais qui ne sont pas du tout démocratiques, de type les pays du Moyen-Orient, qui ont acheté, comme le Qatar qui a acheté les Rafales, l'Égypte aussi a acheté les Rafales.
Est-ce qu'il y a des partenariats, comme on parle souvent dans les commandes publiques, partenariats public-privés entre l'État, ses sociétés, pour développer donc de nouvelles armes?
C'est un marché quasi public, c'est un secteur quasi public, dans la mesure où c'est pas possible de vendre des armes si t'as pas l'accord de l'État. Et d'autre part, il y a énormément de subventions qui vont, à travers de l'industrie d'armement, des subventions nationales, mais aussi des subventions européennes pour soutenir ce marché, parce qu'il ne peut pas, il peut pas tomber dans la mesure où c'est un instrument au service de la stratégie internationale de la France.
Et il y a des coopérations entre États, industrielles, sur la recherche technologique, je pensais moi aussi avec Israël, puisque
tout à fait.
La coopération France-Israël est quand même assez développée dans ce domaine, en tout cas dans la recherche technologique de nouvelles drones.
Notamment, avec Thales, qui effectivement, mais aussi Safran, qui pour produire des drones se base beaucoup sur la technologie d'Elbit, qui est une société israélienne. Mais cette coopération d'ailleurs n'est pas sans poser parfois des problèmes. Par exemple, là, l'Allemagne a décidé de suspendre, en raison du Yémen, tous ses ventes d'armes vers l'Arabie Saoudite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un armement, il est composé d'un armement de composants qui viennent d'origines totalement différentes, et notamment de différents États. Et quand c'est des composants, quand l'Allemagne fabrique des composants qu'elle envoie en France pour la fabrication de matériel, là, elle est dans une situation compliquée, puisque la France applique une politique qu'elle ne souhaite pas. Donc, c'est pas sans poser des contradictions aujourd'hui, et du coup, il y a des pressions de l'Allemagne pour que la France révise sa politique internationale. Et donc c'est dans les deux sens. C'est parfois, effectivement, l'Union européenne peut être un levier pour exporter beaucoup d'armes par des pays en guerre en donnant des fonds supplémentaires. Ça, c'est extrêmement grave. Mais de l'autre, effectivement, si les partenaires ne sont pas d'accord entre eux, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, il y a ces enjeux-là.
Non, mais ça veut dire, moi je réagis là, Tony, à ce que... Ça veut dire que tout n'est pas transparent dans les réseaux aussi de constitution de ces armes, ou de ces nouvelles armes qui sont porteuses de nouvelles technologies, etc. C'est-à-dire que tout n'est pas si évident, tout n'est pas si transparent que ça. Si quelquefois l'Union européenne est confrontée à des contradictions de ce type, ça veut dire que c'est pas forcément un secteur très transparent.
Ah bah on n'a pas d'infos, hein, faut le dire très très bien. On ne sait pas ce que la France vend. On a un rapport à Parlement qui sort chaque année, qui est censé détailler tous les ventes d'armes. Mais le problème, c'est qu'il y a aucune mention des quantités, des types précis de matériel exporté. On a juste des montants financiers qui apparaissent, dans des vagues catégories qui sont qui mélangent missiles, bombes, obus, enfin bref, qui sont trop larges pour qu'on sache savoir précisément ce qui est exporté, en fait. On n'a pas la quantité de matériel, on a juste le nombre de contrats et le montant financier. Donc on peut pas nous travailler, et cette opacité évidemment voulue, parce que du coup, en donnant le moins d'informations, l'État peut faire un peu ce qu'il veut. Et c'est vrai que ça pose aujourd'hui un problème démocratique, parce que les parlementaires qui souhaitent avoir plus d'infos, notamment sur les ventes d'armes au Yémen, ils posent des questions au gouvernement, puis on leur répond rien, quoi. On leur dit simplement que la France respecte ses engagements internationaux et puis allez voir ailleurs. Donc c'est pas le cas au Royaume-Uni, en Allemagne, où le gouvernement est tenu de répondre, et les parlementaires ont accès au secret défense.
Oui.
Et il y a des débats très vifs en Angleterre depuis des années et des années, où les parlementaires, ils rouspètent, où il y a des polémiques sur les ventes d'armes. En France, c'est pas du tout ça, quoi.
Est-ce qu'on peut supposer que des armes, puisqu'il y a quand même, de par le monde, un certain nombre de lieux de conflits armés, est-ce qu'on peut supposer aussi que ces zones servent des fois à l'expérimentation de nouvelles armes?
Ah mais bien sûr, bien sûr. Le Yémen, c'est le laboratoire des armes françaises. C'est-à-dire que des armes françaises que même l'armée française ne possède pas sont testées au Yémen. On a envoyé par exemple des Mark III Crotal, qui sont des défenses anti-aériennes. On en est tellement proche de l'Arabie Saoudite qu'on leur a fourni en test et qu'on les a même fabriquées en fonction des besoins de l'Arabie Saoudite. Et du coup, on leur envoie, ils les testent, et ça ne les a pas plu, ou ils n'ont pas voulu pérenniser le contrat, donc ils les ont renvoyés en France. Donc c'est testé évidemment là-bas, quoi. Et évidemment, c'est là où effectivement, il y a un moment donné, il y a des industriels de l'armement même qui nous ont contactés, où on est sur lequel on a débattu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au départ, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au Yémen ? Des industriels français, ils ont commencé à travailler en 2011 sur tout un tas d'armements, et on leur a dit cet armement-là, il est destiné au Liban dans la lutte contre Daesh. Et puis ils sont aperçus en 2015, quand ils ont fait les tests de matériel, qu'on leur demandait d'adapter le matériel aux conditions géographiques du Yémen. Parce qu'en fait, dans l'armement, il y a beaucoup d'électronique et vous choisissez pas les mêmes composants en fonction du taux d'humidité dans l'air, par exemple, ou d'autres conditions géographiques, parce qu'ils vont pas résister. Et c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, sur des hélicoptères, ils se cassent la gueule, ou ils s'écrasent, ou des drones, c'est parce qu'en fait, les composants, soit ils fondent, ils s'altèrent, parce qu'il fait trop chaud, c'est trop humide, etc. etc. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, tout l'armement sur lequel ils ont travaillé pendant des années et des années, en fait, était au service de cette guerre-là. Ils ont préparé cette guerre sans vraiment le savoir, ou sans vouloir le savoir aussi. Hein, mais en tout cas, il y a eu effectivement, à un moment donné, l'Arabie Saoudite qui a dit « Non, cet armement n'est pas destiné au Liban. C'est moi qui ai payé cet armement pour le Liban, mais je vais en faire autre chose. Je vais le garder pour moi et je vais l'utiliser contre les civils au Yémen. » Donc en fait, on a eu un montage, parce qu'il y a des cadres du ministère de la Défense qui ont fourni le témoignage à un de nos contacts, qui disaient qu'en fait, cette idée de contrat vers le Liban était fait pour maquiller la transaction, hein, parce que ça portait sur au moins 3 milliards d'euros de matériel, donc pour pas que ça apparaisse de façon visible, il fallait éviter de faire apparaître directement le nom des fabricants et le nom du matériel. Donc on a choisi un mot qui s'appelle Donas, hein, d'ailleurs je sais même plus, Don et Arabie Saoudite, quelque chose comme ça, et comme ça, et ben les gens n'y voient que du feu, et puis après on dit que ce contrat, il est en vigueur ou il est pas en vigueur, on maintient le trouble et les gens ne s'y retrouvent pas, les journalistes non plus, du coup ils en parlent pas, et c'est ce qui s'est passé en fait.
Donc c'est pas un sujet gai, hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement c'est l'économie toujours qui prime, hein, sur l'humain. Et est-ce que la France assume les conséquences
oui
de ces choix?
Oui, non, parce que il y a du mouvement aujourd'hui. Il y a un député En Marche qui a demandé une commission d'enquête parlementaire. Il y a une grosse mobilisation des ONG. Il y a 11 ONG qui demandent une commission d'enquête parlementaire sur le Yémen, dont l'Observatoire des armements. Donc il y a une forte pression sur le gouvernement. Il y a un député En Marche qui a fait une demande de commission d'enquête, hein, par rapport aux ventes d'armes françaises au Yémen, qui a rallié quand même une trentaine de députés et qui n'a pas été ouvert aux autres groupes politiques. Donc voilà, il y a quand même une mobilisation qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas il y a quelques mois. Donc c'est positif, ça montre bien que la mobilisation permet de faire des choses, permet de peser. Mais encore faut-il mettre les mains dans le cambouis, c'est super important de... Voilà. Alors après, c'est pas facile, hein, ça, c'est des sujets qui sont tellement dépolitisés que c'est dur de faire avancer les choses comme ça du jour au lendemain. Les avancées, on les gagne généralement en 10 ans, quoi, sur ce type de sujet. Mais en tout cas, ça montre bien que, si on est tous unis, on arrive à un moment donné à peser même sur ces sujets-là. Donc il faut pas désespérer, et il faut au contraire se dire que c'est pas un domaine si technique que ça. C'est résumé en une émission de grains de sable. Là, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Hein, c'est du politique en fait. On a l'impression que c'est du technique, que c'est compliqué, mais c'est juste du politique, quoi. Si on vend des Rafales à l'Égypte, c'est parce qu'on veut peser sur le président égyptien et qu'on veut construire le métro au Caire, parce qu'on veut, aussi peser sur les alliés de l'Égypte. On veut là encore étendre notre pouvoir comme on le faisait du temps des empires, du temps de la colonisation, ce qui n'a rien de neuf.
donc de l'importance des mouvements citoyens, la mobilisation citoyenne.
Ah, mais c'est ça que ça veut dire. Il n'y a que ça qui compte. C'est... Parce qu'un travail d'expertise, c'est très bien, une expertise auprès des parlementaires, mais ça ne suffit pas. Les parlementaires, ils n'agissent pas. Ils l'ont dit, hein, par rapport à la campagne sur le Maine. Ils l'ont dit, c'est parce qu'on a reçu 20, 30 quarts de militants de la CAT. C'est pour ça qu'on est à votre rendez-vous. Mais c'est ça, parce que c'est le rapport de force. Il faut créer ce rapport de force. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut créer un rapport de force. Ça peut passer que par les gens sur le terrain, des actions dans les salons de l'armement, on proteste. Ça peut, à différents niveaux. Il faut être à tous les niveaux, mais voilà. C'est l'action qui fait le changement social, mais c'est le cas dans les armements, mais c'est le cas aussi sur la SNCF, d'autres luttes, quoi. Qui sont tout aussi importantes par ailleurs, la défense de l'hôpital public, c'est pas ce qui manque aujourd'hui.
Tony, j'aimerais que vous nous rappeliez où se trouve l'Observatoire des armements à Lyon, parce que comme c'est un centre de documentation, il faut que chacun puisse éventuellement aller comprendre un certain nombre de choses, le fonctionnement, la documentation, elle est ouverte au public, hein, c'est ça. Donc ça, j'aimerais bien que vous le rappeliez. Ouais. Et puis, il me semble que votre association diffuse aussi... diffuse une revue ou un bulletin, donc j'aimerais bien que vous parliez de ça un petit peu.
Oui, alors c'est vrai qu'on est un centre de doc, on est ouvert à tous les citoyens pour des débats, voilà, si vous souhaitez organiser un débat localement avec vos voisins, ou voilà, n'hésitez pas, hein, je pense que c'est par ça qu'on change les choses, et puis on est un centre de documentation, on verra tous, tout le monde peut consulter les ouvrages, il y a des étudiants qui viennent régulièrement étudier. On est ouvert aussi aux citoyens qui souhaitent s'intéresser à ces questions-là. Et puis effectivement, on a une revue auquel vous pouvez vous abonner, qui est Damoclès, hein, et qui fournit des informations. On a aussi notre site internet, obsarm.org. On est présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. On essaye de donner un peu d'informations. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite, n'hésitez pas à vous engager d'une façon ou d'une autre, que ce soit à l'Observatoire ou dans d'autres lieux. Et puis c'est parce que c'est vrai que les questions internationales sont à notre sens un peu sous-traitées, et qu'il est temps que vraiment le citoyen, comme dans les années 70, s'approprie, se dise bah, « tiens, ça fait partie, j'ai une responsabilité par rapport à ce qui se passe dans le monde aussi ». Voilà.
Alors on n'a pas... parler d'un sujet moi qui m'intéressait, mais c'est pas grave, ouais. On peut trouver des informations sur le site. C'était effectivement sur les conséquences des essais nucléaires. Ouais. Bon, c'est un peu dommage qu'on l'ait pas abordé, mais effectivement il y a eu tout un travail de fait, parce que est-ce que la France a bien assumé les conséquences sanitaires de ces essais nucléaires, que ça soit en Algérie ou en Polynésie. Je dis ça parce que moi j'ai une collègue dont le père est décédé à l'automne dernier, un Polynésien, qui a été victime des essais nucléaires, qui a été traité en métropole, c'est un peu dommage, mais je pense que l'Observatoire a fait un gros travail aussi dessus. Je crois qu'il y a un ouvrage qui est sorti.
Oui, on a fait un gros travail pendant des années et des années, avec les vétérans et puis aussi surtout les associations polynésiennes, pour qu'il y ait une reconnaissance de l'État français, des dommages causés, donc tout un travail d'expertise sur les conséquences sanitaires, sur les populations, sur les vétérans, avec tout un travail de pression sur, pour que ce soit vraiment reconnu, et que les dommages soient indemnisés, et qu'après ça, on puisse interroger la place de la nucléaire dans nos sociétés. Et cet objectif-là, on a du mal à parvenir à ça, quoi. C'est-à-dire que la mobilisation des gens, des associations polynésiennes, mais aussi des vétérans, n'a pas conduit à une remise en cause politique de la question du nucléaire en France. Cette question de la remise en politique est plutôt faite à l'international avec effectivement ce traité d'abolition des armes nucléaires, oui. qui met au banc des nations les États détenteurs de cette arme de destruction massive. Donc aujourd'hui, alors il y a quand même un certain nombre d'États qui ont qui ont ratifié le traité, donc c'est positif. Je crois qu'il en faut 50 pour que ce traité entre en vigueur. Donc il faut continuer aussi, c'est un autre pan, hein, à travers la campagne ICAN, ce combat-là, pour parvenir à ce que ce traité soit entré en vigueur et que la France puisse apparaître comme un des États voyous du globe et que ça, hein, ça continue d'entraîner ce, ce mouvement de fond où la France s'isole, où les États-Unis s'isolent. Et à force de s'isoler, ben, ils vont être obligés de composer avec le reste.
Cette campagne internationale, elle revêt, elle est faite sous quelle forme ? Il y a des pétitions,
Il y a des pétitions, tout à fait. Il y a un jeûne, hein, il y a des actions de jeûne qui sont menées à Paris lors de commémoration de Nagasaki et d'Hiroshima, oui. Début août. Donc ça, c'est l'occasion de s'investir de façon concrète pour les gens qui aiment bien les actions de terrain. Hein. Ça, c'est... Voilà. Donc, il y a des actions concrètes, il ne faut pas hésiter. C'est vrai que plus que sur les armes classiques, sur les armes nucléaires, il y a vraiment un terreau militant avec des gens qui font des actions depuis des années et des années. Donc c'est l'occasion de pouvoir s'y associer si on le souhaite.
Alors l'adresse, on l'a dit, on l'a donné.
187 Montée de Choulan, c'est dans le 5e arrondissement Saint-Just.
Saint-Just.
Voilà.
Ah oui. Eh bien merci.
Et le site peut-être.
Et opsarm.org.
Hop, comme ça s'écrit.
OBSARM.org. Voilà, vous avez tout.
Et d'ailleurs, quand on va sur le site, la première page est quand même. Ça nous remet des choses au clair. Industrie d'armement mondiale, comment la France participe à la guerre contre le Yémen, coopération sécuritaire. Le niveau des dépenses militaires mondiales se maintient à 1700 milliards de dollars. On ne sait même pas ce que ça représente, 1700 millions de dollars.
Milliards.
Ouais. Milliards de dollars.
C'est énorme. Hein, ouais.
C'est énorme.
Ça montre vraiment le poids du militaire dans le monde. Qui...
Et donc, il y a une petite vidéo sur YouTube.
Ouais. Voilà, sur la guerre au Yémen, on lance notre chaîne YouTube. Il y aura une autre vidéo au prochain salon d'armement Eurosatory. Donc n'hésitez pas à diffuser les vidéos parce que ça peut toucher un plus large public, notamment les jeunes qui ne lisent pas forcément beaucoup aujourd'hui, mais qui regardent des vidéos.
Oui, puis ça permet d'avoir une approche pédagogique.
Pédagogique, voilà, en 4-5 minutes d'expliquer un problème de façon claire. Tout à fait, c'est important.
D'accord. Eh ben merci Tony. luttons contre les armements.
Non,
arrêtons la guerre.